Histoire orale de la production intellectuelle en Afrique du Nord. Maroc, Algérie, Tunisie.
Aslam Nasir Khalil.
Aslam.
D'abord, merci beaucoup pour l'occasion que vous nous donnez pour discuter avec vous.
Oui.
Et échanger un peu. J'ai la même question que je pose à tout le monde et vous répondez librement. Vous êtes qui, Sir Khalil?
Je suis Khalil Zamidi. Je suis né le 8 octobre 1934 à Saint-Germain, qui est devenu Zara ici.
Oui.
Donc, mon grand-père maternel est algérien et mon père est tunisien.
D'accord.
Et ils se sont rencontrés, ma mère et mon père, sur la plage. Elle était avec ses sœurs et il passait, elle lui a plu. Il est allé frapper à la porte pour la demander en mariage. Mon père, qui est de Mamoura, tu vois, il chassait des poissons avec un éperier. Et puis, alors, ma grand-mère, elle lui a dit, pas question. Il n'est pas question que ma fille, Bentel Dalechi, tu vois, prenne un pêcheur. Alors, mon grand-père lui dit, écoute, rassure-toi, alors, je me suis renseigné, c'est un ingénieur agronome. Ce qui fait que déjà, cette idée que les mariages étaient arrangés, que c'était une affaire familiale et pas personnelle, en gros, c'est juste, mais c'est pas tout à fait comme ça. Donc, je suis né à Zara et pendant toute ma scolarité, jusqu'à 10-12 ans, hein, on ne parlait que français. À la maison, l'enseignement, l'école, etc. Ce qui fait qu'on avait une maîtrise parfaite de la langue française.
Et comment vous expliquez ça, que à la maison vous parlez que français, enfin vous parlez français?
Parce que Saint-Germain, c'était un village français. Alors les voisins étaient français, on allait chez eux, ils venaient chez nous, tu vois. C'était par la force des choses, à partir du moment où il y a une grande majorité, tu vois, de français, tout le commerce, l'église, l'école, tout était par des français. Ça, c'est la différence de la colonisation française par rapport à l'anglaise. Tu vois. Ouais. Il y avait cet objectif de l'éducation qui n'existait pas tellement dans les pays anglo-saxons, tu vois, parce que...
Mais ça, c'est uniquement dans certains quartiers en Tunisie, pas partout.
Oui, non pas partout. La Médina, etc., c'est pas tout. Mais tu vois, par exemple, Chérif le sait, tu vois, la zone de Bizerte, Ferryville, etc., tu vois, c'était une majorité de française. L'ambiance, les dancing, tout était... Ouais. Donc, il y avait cette inculcation au début de la langue, de la culture française. Nos amis, nos jeux, les invitations, tout était français. Tu vois. Et ça, c'est un aspect de la colonisation qui est sous-estimé, qui est ignoré. Tu vois.
Oui.
Parce qu'à ce moment-là, on ne voyait pas la colonisation, nous, à notre âge. On voyait que des amis, que des gens bien, que etc. Tu vois. Ça, c'était le début. Mais comment on est venu à la sociologie? Il n'y avait pas d'enseignement de sociologie en Tunisie. Les deux premiers introducteurs de la sociologie en Tunisie, c'était les années 60, 55-60, c'était Georges Granet, qui était un élève de Gurwitch, Georges Granet, et ensuite Jean Duvigneau. Donc, c'est les deux introducteurs de la sociologie en Tunisie. Et donc, voilà comment ça s'est passé. Tu vois, il y avait Georges Granet était chargé de faire un certificat de morale sociologie dans la licence de philosophie.
Ça, c'était dans quel établissement?
C'est l'Institut des sciences humaines.
Ouais.
Qui était dirigé par Martelot.
Martelot,
tu vois, oui. Qui est connu, hein, qui était directeur de l'Institut des hautes études. L'Institut des hautes études, c'est ça. Et alors, voilà. Granet, c'était un élève de Gurwitch, et il voulait absolument introduire la sociologie. Introduire la sociologie dans le pays. Au milieu de l'année, il a profité de la venue de Gurwitch. Ils sont allés voir le ministre de l'Enseignement. Et ils lui ont dit que la sociologie était très importante, qu'il faut introduire la sociologie dans des pays comme ça, en mutation et tout. Et puis, il est venu, on était Hassel, une vingtaine. Il est venu, il nous a dit, voulez-vous faire une licence de sociologie? Alors qu'il n'y avait rien, les licences n'est rien. Il a introduit l'enseignement, il a dévié, tu vois, et puis il a institué le certificat, le premier certificat de sociologie.
C'était quelle année?
C'était 55.
55.
55.
D'accord.
Tu vois, et puis c'était un coup de force, hein. C'était une passion pour lui d'introduire la sociologie. Moi j'étais en propé, je devais faire philo. Et puis, on a entendu parler de quelqu'un qui enseignait la sociologie. On se dit, on va aller voir. Moi et quelqu'un qui s'appelait Harnachi. On est allé ce jour-là, il avait donné une dissertation. Le sous-développement. Tu vois. Bon, j'ai pris l'intitulé, j'ai remis la copie la semaine d'après. Et puis, quand il a corrigé, il est venu, il a dit, qui est Zamiti? Il m'a dit, est-ce que vous voulez faire. Faire sociologie. Je lui ai dit, écoutez, je ne peux pas, je suis engagé à l'école normale avec un contrat. Alors, il est allé voir le ministre. Il a enlevé mon engagement dans un truc. Il m'a donné une bourse française. C'est-à-dire que vraiment, il y a toujours derrière les œuvres, il y a des hommes, il y a une volonté. C'est Georges Granet qui a introduit la sociologie.
C'est quoi l'objectif? C'était un objectif colonial? C'était un engagement vraiment pour former les petits Tunisiens? C'était quoi là?
C'est-à-dire que pour eux, cette génération-là, c'était une passion pour une discipline. Ils voulaient absolument diffuser cette dimension-là. Et puis, bon, le procès de la colonisation n'est plus à refaire, c'est pour l'exploitation, etc., tout ce qu'on veut, hein, mais il y a eu quand même, tu vois, toute une génération qui a été formée, nos enseignants étaient français, nous, tu vois. Et donc, la première génération de sociologues, Abdel Qadir Zghal, Lili Ben Salim, Faraj Sidambouli et moi-même, c'était les quatre premiers, la première promotion de sociologie, grâce à ce coup de force de Granet qu'il a introduit au milieu de l'année. Contre vent et marée.
Et l'enseignement, ça s'est entièrement passé à Tunis.
À Tunis.
Pas en France.
Non. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il y a eu Granet. Après Granet, il y a eu Jean Duvigneau.
Oui.
Granet, il nous a enseigné la sociologie, l'histoire de la sociologie, les concepts, etc. Et Duvigneau, c'était le terrain, chez Bica, etc. Et Duvigneau, il nous a fait inscrire avec Ballandier et Berg pour faire les tests d'État en France. Tu vois. Et donc, tu vois, grâce à ça, tu vois, j'ai été pendant les années jusqu'en 67, tu vois, j'étais chargé de cours à la Sorbonne en sociologie. Tu vois. Et donc, c'est cet itinéraire qui nous fait connaître beaucoup de gens. Comme j'étais membre du bureau international de la langue française, hein, alors, Ballandier, Bourdieu, tous ces gens-là, c'était des. C'était des collègues, quoi, finalement.
Ouais.
Et on a appris énormément avec eux. Avec le roi Gourand aussi, parce que j'ai eu le diplôme d'ethnologie au Musée de l'Homme, tu vois. Et donc, on avait eu la chance de connaître ces personnages, tu vois, d'une très grande envergure. C'est une espèce en voie de disparition. Maintenant, c'est des jeunes qui apprennent, tu vois. Et ce qui se passe, c'est que j'ai assisté récemment au CRS, d'ailleurs, tu vois, un exposé de thèse. C'était des gens qui préparaient leur thèse. Quand je suis sorti de là-bas, je lui ai dit, mais écoute, ça n'est plus de la recherche. Tout le travail, c'était sur la. Ouais, comme ça. Il te sort des trucs sur Internet. C'est-à-dire que. C'est une différence extraordinaire. Pour moi, le terrain avant, on prend une voiture, on se va sur le terrain, on voit les yeux dans les yeux avec les gens et on remarque les détails. Ici, tu vois, l'information est électronique, tu vois. Ce qui fait que vraiment, il y a un problème.
Vous étiez sur le terrain avec Duvigneau?
Ah oui.
Chebeka.
Tout Chebeka, parce que Duvigneau, il connaît pas un mot d'arabe, tu vois. Et donc, Chebeka, comment il a choisi Chebeka? Il est allé devenu avec Berk et Ballandier. Ils sont allés en tournée pour choisir un endroit. Ils ont vu Tamarza, Chebeka, et puis ils sont tombés amoureux de Chebeka, tu vois. Alors, je sais que d'un bout à l'autre, j'étais avec lui. C'est moi qui traduisais. Alors, c'était un bon roman, disons, tu vois. Mais peu ethnologique, peu science, vraiment, tu vois. D'ailleurs, il a été très violemment critiqué, tu vois, pour ça. Parce que il y a beaucoup d'imaginaires. Par exemple, l'histoire de la carrière. On leur a demandé, les gens de Chubica de là-haut, de casser des pierres pour qu'ils construisent en bas. Une fois qu'ils ont fait un travail de titan pour tailler les pierres, etc., on leur a dit, écoutez, on va commencer par construire la maison du gouverneur. Après, on verra. Ils se sont mis donc à l'écart, ils ne voulaient plus travailler, et puis c'est tout. Alors, quand on voit ce qu'il y a dans le bouquin, et puis ensuite le film, ils étaient malades, ils tombaient, etc. C'est devenu une conscience révolutionnaire, extraordinaire. Il y a une part descriptive, ethnologique, et puis tout de suite après, c'est l'imaginaire. Quoi. Et c'est parce que Duvigneau, tu vois, il a voulu faire de la littérature. Mais en gros, le travail de terrain a fait que, pour ma part, tu vois, j'ai beaucoup travaillé sur les campagnes. Et le résultat de tout ça, c'est que, pour comprendre ce qui se passe dans la Tunisie actuelle, hein, avec ces crises, etc., il y a eu une urbanisation des campagnes, une ruralisation des villes et une tiers-mondisation de l'Occident.
On va revenir un peu à la première partie de votre itinéraire.
Oui.
Vous avez été éduqué au lycée, j'imagine, quelque part à Tunis?
Ah non, le lycée c'était à Saint-Germain, et après le lycée Carnot.
C'est quand même un circuit scolaire,
oui,
de famille, d'enfants de famille aisée. Vous venez d'une famille aisée?
Ah oui, bien sûr, oui. Mon grand-père maternel, tu vois, la France imposait la double nationalité et que c'était un homme très identitaire, très croyant, il est parti. Il avait beaucoup d'argent.
Il est parti où?
À Zara. Il a acheté le terrain de Zara jusqu'à Mamlif. C'était toute une génération qui sont partis de... Ils sont installés un peu partout au Maroc, en France, pour garder, pour ne pas avoir la nationalité française.
Et donc, il n'y avait pas beaucoup de mixité sociale, comme on dit maintenant?
Ah non. C'est-à-dire que la grande différence, c'est que... Et c'était une société élitiste.
D'accord.
Une société élitiste. Il y avait la Médina avec le rempart, et là, il y a la maison d'un tel, d'Al-Salam, d'Al-Zarour, d'Al-Flan, etc. Tu vois. Il y avait une élite, une minorité qui avait un grand niveau de culture, tu vois, de finesse, de raffinement, etc. C'était une espèce qui n'existe plus. Et alors, il y a un indice, quand je dis ruralisation des villes, il y a des marqueurs au niveau de l'analyse. L'hégémonie du gars. Maintenant, tous les responsables parlent de gars. Le gars, c'est un marqueur de la transformation sociale, la grande transition. C'est-à-dire que ce que montre bien Polanyi, tu vois, Karl Polanyi, ce qu'il appelle la grande transformation, c'est cette transition, ce passage de la ruralité, de la vieille, d'ancienne société, à la modernité, à l'économie de marché. C'est ça, je crois, qui est le cadre global pour comprendre la situation actuelle. Le temps de Bourguiba, nous étions tous contre Bourguiba. Moi-même, j'étais leur enseignant à la fac, et on était virulents contre Bourguiba. On n'a jamais eu de problème, tu vois. Et puis, à un certain moment, il y a eu une répression. Celle dont on a été victime, Chérif Hamay et les autres, j'ai oublié.
On parle de Chérif Fergen. Pardon, parce que vous étiez sociologue, vous enseignez à ce moment-là.
Oui.
Vous avez des étudiants ou des ex-étudiants qui se sont trouvés en prison.
En prison,
tout ça. Qu'est-ce qui vous a protégé, vous? Pourquoi vous n'êtes pas allé en prison?
Je crois, tu vois, qu'il n'arrêtait les gens que s'ils étaient organisés. Moi, j'étais à fond avec les gars, tout le temps, sur tous les plans. Et mais j'ai jamais été dans un parti. Voilà. C'était compliqué, la Tunisie. Il y avait des relations familiales, des relations personnelles, etc.
On revient un peu au terrain et l'expérience du terrain. Oui. Qu'est-ce que vous avez retenu de l'expérience du terrain? C'est quoi le terrain pour vous?
Pour moi, le terrain est révélateur, tu vois, de la grande transformation. Ce qu'était la Tunisie, c'était des artisans, c'était des paysans, c'était des self-made men, tu vois. Personne ne demandait un emploi à l'État ou aux fonctionnaires. Regarde ce qui se passe maintenant, tu vois. C'est ça qui est impressionnant. C'est que il y a eu le passage de l'ancienne société, c'est-à-dire des personnes qui créaient leur spécialité, hein, qui créaient leur entreprise, artisans, pêcheurs, etc., tu vois, et qui ne demandaient rien à l'État. Le fils de pêcheur devient pêcheur, le fils de menuisier devient menuisier, etc. Tu vois. Et la grande transformation, c'est que la colonisation a brisé les anciennes formes de production. Ce qui fait que les produits locaux n'existent plus et ils sont remplacés par des produits d'importation. Mmh. Tu vois. Et donc, la destruction des formes coutumières de production a permis, tu vois, au capital de fonctionner. Et c'est ça qui fait que c'est une société qui est devenue extravertie. C'est-à-dire que on est passé d'une société où l'accès à l'économie, tu vois, était l'œuvre de personnes isolées, artisans, etc. Ce système a été brisé. Et là, on reproche à Bourguiba d'être la cause de tous les drames d'ici, parce qu'effectivement, il a généralisé l'enseignement gratuit, Bourguiba. Le CSP, le Code du statut personnel, tu vois. Et puis, la généralisation de l'enseignement. Et la généralisation de l'enseignement a fait que les gens ont quitté les trucs familiaux. Donc, il y a eu une entrée massive, hein, à l'école. En sortant de l'école, de l'université, les gens demandent de l'emploi à l'État. Et l'État n'a pas d'État. L'État n'a pas d'emploi à offrir.
Oui, mais ma question était pour le sociologue. Et je ne veux pas croire que le sociologue, connaisseur du terrain, de la campagne, de la population, dise juste comme ça, avant les gens comptaient sur eux-mêmes, et maintenant ils comptent sur l'État. Ce n'est pas vraiment une explication convaincante pour le sociologue.
C'est-à-dire qu'actuellement, le fonctionnariat a pris une ampleur extraordinaire, statistiquement. Avant, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait le B, avec sa mahal, et il allait prendre les impôts à un certain moment, tu vois, et c'était limité. Le reste des gens, c'était des artisans. Maintenant, c'est devenu une espèce en voie de disparition, tu vois. Actuellement, je suis en train de travailler sur deux cas de personnages qui sont allés à Paris, ils ont travaillé pendant 25 ans, ils ont ramassé un pécule, ils sont venus ici, ils ont créé une entreprise. Voilà des cas qui diffèrent de la grande masse des étudiants qui demandent de l'emploi, qui veulent le fonctionnariat.
Je vois bien où vous voulez en arriver, mais je crois qu'il s'est produit quelque chose. Il y a un phénomène de dépossession de cette population-là, de ses outils de travaux,
exactement,
de modification profonde des relations et de modes de production, qui fait que avant les gens grandissaient, ils avaient un outil de travail.
Voilà.
Ils avaient des moyens de travail.
Exactement.
Et alors que maintenant, s'ils tendent la main à l'État ou à d'autres personnes ou institutions, c'est parce qu'il n'y a plus ce travail.
C'est exact. Voilà, je vais donner un exemple. Parmi ceux que j'ai vus, dans le Zagouani, dans le Kawane, à 25 km au-delà de Kawane, il y a un endroit qu'ils appellent Bin Lejbel. Qu'est-ce qui s'est passé là, tu vois? À un certain moment, au milieu de la colonisation, on est venu demander aux tribus d'évacuer. On les a placés sur sur le bord de la montagne. Et puis, ça a été la grande colonisation officielle. Charmaton, Canet, c'était des gens. Les gens se souviennent jusqu'à maintenant, tu vois, de ces personnages. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On a séparé les travailleurs de leurs moyens de production. À ce moment-là, comme ils ne produisaient plus leur propre consommation, ils sont venus travailler chez le colon. Donc, qu'est-ce qui s'est passé là? Séparation des travailleurs de leurs moyens de production. Généralisation de la forme marchande. Et puis, mise au salariat. Ce sont les trois présupposés du capital.
Qui sont imposés.
Exactement.
À la population.
Exactement. C'est-à-dire que si Marx était là, sur la colline, il aurait écrit son chapitre sur l'accumulation primitive uniquement en décrivant. Chez Marx, il y a beaucoup de points de litigieux, mais ce chapitre sur l'accumulation primitive, c'est vraiment de la science pure. Hein. C'est-à-dire qu'on ne comprend rien à la campagne tunisienne si on ne saisit pas ces choses-là. Séparation des travailleurs de la main de production, mise au salariat des travailleurs, et puis généralisation de la forme marchande. Regardez. Dans l'ancienne société dont je parle, il y a un seul mot, qui dévoile le mode de production. Et ce mot n'a jamais été enregistré.
C'est quoi?
Je prends par exemple les oasis, le système oasis. Le système oasis. Alors, Habib Ataï a écrit dessus, Salah Hamzaoui, etc., tu vois, donc, sur le Hamas, le contrat de Hamas. Mais il y avait un mot manquant, tu vois, qui est celui-ci. L'hnana. L'hnana, c'est le don généreux, le don véritable. Qu'est-ce qui se passe? Le khamès, il reçoit le cinquième, mais ce n'est pas le cinquième de toute la récolte. Hein. Les dates de valeur, d'aigles, etc., il ne touche pas. Le propriétaire garde chez lui la part de... Et puis tous les 15 jours, il lui donne une partie. S'il s'enfuit, la part de ce tête-là qui est parti, qui en principe est le fruit de son travail, il le donne à quelqu'un qui va continuer jusqu'à la récolte prochaine. Ce qui fait que quand on donne quelque chose à quelqu'un, c'est pas pour ses beaux yeux, c'est pas pour ce qu'il mange, pour qu'il soigne, c'est parce qu'il est rentable, il est productif. Oui, je l'ai appelé le système de Hamas. Il y a des marqueurs de l'ensemble, parce que tout se tient. Tu vois, il y a 10 paliers dans la société, chacun d'eux renvoie à l'ensemble, d'un niveau de la langue, tu as des notions qui sont révélatrices de tout ce système-là. En tant que sociologue, on décrit les phénomènes, mais les journalistes aussi font ça. Mais à partir du moment où tu maîtrises un outillage, hein, ces phénomènes qui paraissent absolument conjoncturels, on les élucide. Moi, j'écris dans une revue, Réalité.
Exemple,
régulièrement, chaque semaine, j'écris un papier. Et dans chaque semaine, il y a, tu vois, un aspect sociologique. Il y a un bouquin que je suis en train de lire maintenant, qui est extraordinaire, qui raconte un peu ça, tu vois, sur le désenchantement. Ouais. Le désenchantement du monde, de Max Weber.
Depuis, vous avez commencé à vous dire que vous êtes sociologue.
C'est ça.
Jusqu'à le sociologue observateur maintenant.
Oui.
Et vous écrivez, vous décrivez, oui, vous observez, et pas seulement, vous analysez, vous décrivez, vous publiez.
Oui.
Quelle a été l'évolution de la campagne tunisienne pendant cette période-là? Comment vous la voyez, cette évolution, dans ses profondeurs, dans son organisation sociale, dans ses rapports de production?
Oui.
Comment ça a évolué, cette société rurale? Je parle des années 40.
Les années
40, 50, 60, jusqu'à maintenant, comment ça a évolué? Qu'est-ce qui a déstructuré cette campagne?
Ce qui a déstructuré la campagne, c'est sans aucun contexte la colonisation.
Oui, voilà. premier phénomène.
La destruction des anciennes formes de production par l'économie de marché. C'est ça, le grand... Sinon, avant, c'était comme dans toutes les campagnes du monde. Les gens ont travaillé beaucoup, et puis ils se contentaient de peu. Si je prends l'exemple d'un village comme Mamoura, par exemple, tu vois, le village de mon père, hein, eh ben, là, c'était vraiment le modèle idéal de la paysannerie. Ce sont des gens qui plantaient tout ce dont ils avaient besoin. Ils utilisaient très peu d'argent, tu vois. Ils consommaient, et puis ils faisaient une réserve. Une réserve, pour passer le cycle agricole. Et puis, il y avait une espèce d'harmonie. Et je pense, tu vois, qu'il y avait une qualité humaine extraordinaire, tu vois. La preuve, quand on va travailler dans les campagnes, même les gens les plus pauvres, dès qu'on arrive, tout de suite, tu vois, le gosse qui va attraper un coq, il t'apporte ce qu'ils ont, etc. Tandis que quand on va en ville, ici, pour enquêter, ils vous disent, écoutez, laissez-moi tranquille, ils vous offrent même pas un café.
Donc, l'effet de la colonisation, c'était quoi?
La colonisation, elle avait deux aspects. Mm-hmm. Ou bien la colonisation officielle, comme je vous ai donné l'exemple, c'est-à-dire que, vraiment, on vide la population, carrément. Ou bien, par la concurrence des produits qui sont beaucoup moins chers et qui sont d'importation, il y a une différence entre la quantité de travail investi dans le produit et la valeur de ce produit. Hein. Comme la différence est énorme entre l'économie de marché, à cause de la série, et ici, la concurrence brise aussi ces formes anciennes de travail. Donc il y a eu deux processus, ou bien carrément l'exclusion, ou bien la concurrence.
Et l'indépendance, est-ce que l'indépendance, ça a permis à corriger cette distorsion ou ça l'avait aggravée?
Alors là, c'est le problème fondamental, tu vois. C'est ce que vous venez de soulever. L'indépendance a été obtenue par une équipe, mmh, avec Bourguiba, mais pas, mmh, pas tout seul. Une équipe qui était politique et dont l'objectif était politique. Vraiment, c'était toute une équipe qui était motivée par le désir de l'indépendance. Mm-hmm. Tu vois, parce que ils étaient vexés, tu vois, d'être dominés par le colon, tu vois, au niveau quotidien.
Qu'est-ce que ça a apporté en termes de changement sur les structures de la société tunisienne et particulièrement dans la campagne?
L'idée de l'indépendance. C'était pourquoi on nous a dominés. Pourquoi la France nous a dominés? C'est parce qu'elle était industrialisée.
Ouais.
Donc, industrialisons. Et sous l'impulsion d'Étienne de Bernis, tu vois, il a créé ce modèle de développement qui a été appliqué en Algérie et en Tunisie. Alors, l'idée est la suivante. Il faut investir pour créer des entreprises industrielles. Le seul moyen d'où on peut pomper de l'argent, c'est l'agriculture et le commerce.
Ouais.
Donc voilà le modèle. C'était pomper l'agriculture, qui était déjà très faible, et le commerce, pour investir dans l'industrie. Vous voyez, et c'est ça qui a créé la difficulté, tu vois, le conflit. Ouais.
Oui. Mais sur le plan économique et social, quel a été le reproche de fond des politiques de l'époque de Bourguiba? Je ne dis pas les politiques de Bourguiba. Qu'est-ce qu'on reprochait à cette période-là? Il y a eu les premières années de construction de l'État. Bon, ça c'est, voilà. On peut dire que c'est une phase de sursis. Mais il y a eu les coopératives.
C'est ça.
Et après, il y a eu ce que je pourrais appeler maintenant, là tout de suite, je viens l'inventer, la contre-coopérative, ça veut dire la libéralisation des politiques agricoles avec Hadi Nuer particulièrement, inaugurée par Hadi Nuer. Ces politiques-là, oui, c'était ça ce qui était le plus reproché, à la fois, voilà, les coopératives et la libéralisation.
Voilà, justement, on va les prendre les deux.
Oui.
Les deux, et puis l'époque actuelle. Parce que maintenant, il y a de nouvelles formes de coopératives. Les entreprises locales, les coopératives.
Oui. Ça a été proposé comme une alternative.
Oui, c'était une alternative. Mais il y avait un vice de forme là-dedans. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait une expropriation de la petite paysannerie. On prend une ferme coloniale. On prend toutes les petites parcelles de moins de 40 hectares de surface agricole utile, on les mêle ensemble et on dit c'est une coopérative. Mais en réalité, c'est une expropriation des paysans mis au salariat et une appropriation des moyens de production et d'échange par l'État. C'était vraiment un capitalisme d'État. J'avais fait une enquête à l'Institut des sciences économiques appliquées, qui était dirigé par le fils de Maxime Rodinson. J'avais fait une étude sur les coopératives où j'ai montré ça, tu vois, que ce n'était pas des coopératives, c'était une expropriation de la paix tunisienne, une mise au salariat, hein, une appropriation de pas par l'État. Alors lorsque le fils de Bernice a amené ça à Ben Salah, il a vu ce truc-là, et il lui a dit, ça c'est de la recherche, ça c'est de la science, c'est du gauchisme, il s'est fâché, et ce dont on n'a pas parlé, c'est les coopératives de regroupement. Les coopératives de regroupement, c'est quand on regroupe les gens, hein, et on ne leur donne ni travail ni rien, c'était pire que les coopératives. Donc, la bêtise, c'était au lieu de trouver un équilibre entre l'intérêt personnel et l'intérêt particulier, l'intérêt collectif, on a sacrifié l'intérêt individuel. Et c'est ça qui a fait la réaction et qui a fait que le système s'est effondré.
À ce moment-là, il y avait qui pour essayer de s'opposer, pas s'opposer frontalement, mais je veux dire d'essayer d'influencer ou corriger un peu cette politique. Il y avait Jules Bernakache à l'époque, il y avait Slahdin Ahmem.
Jules Bernakache, c'est un des premiers qui a vu que les coopératives allaient s'effondrer. Il a fait un article dans la revue du CERES à ce moment-là, oui, tu vois, oui, qui était vraiment prémonitoire, parce qu'il est agronome, hein, il connaît le système, c'était prémonitoire. Il a dit que ce système va s'effondrer. Parce que si on veut mettre en coopérative la petite paysannerie et qu'on laisse la grande propriété de côté, ce n'est pas viable. Oui. Ça ne peut pas marcher, ça ne s'est fait nulle part. Et quand est-ce que les coopératives sont effondrées? C'était un samedi après-midi, lorsque, tu vois, il voulait généraliser les coopératives à la grande propriété. Ce qui fait que ce sont les grands propriétaires fonciers qui l'ont fait couler, et pas du tout la jacquerie. C'est ça, tu vois, qui est derrière. Il y a toujours de gros intérêts qui viennent contre d'autres intérêts. C'était le jour où on voulait généraliser les coopératives à la grande propriété foncière que le système a éclaté. On a mis tout ça sur le dos de Ben Salah, on l'a mis en prison.
Est-ce que vous avez participé à cette grande enquête sur le centre, le développement rural dans le centre de la Tunisie? Je n'ai plus le titre exact.
Oui, oui, oui.
J'ai été conduit justement dans les années 67-68,
oui, oui, oui,
avant l'arrestation de Gilbert.
Avant l'arrestation de Gilbert. Dans le centre, ce qui s'est passé, c'est partout la même chose. Alors, c'était l'expropriation de la petite paysannerie et la mise au salariat.
La grande enquête sur le développement rural dans la région du Kairouanais.
Oui. Je faisais partie de cette équipe-là. Mais il n'y a pas un coin où on n'est pas enquêté, parce qu'il y a 4 bureaux d'études. Je travaille avec eux en équipe. Alors il y a des ingénieurs agronomes, des hydrauliciens, des choses comme ça, et un sociologue. Qui c'est qui a imposé le sociologue? C'est les bailleurs de fonds. Ils disent parce qu'il faut quand même aussi voir ce que pensent les gens de ce qu'on va faire. Tu vois. Et ils ont inventé ce mot-là, s'il n'y a pas d'accord de la paysannerie, on ne finance pas. Mais pour en revenir à Bourguiba, tu vois, il a fait ce qu'il a fait parce qu'il a profité de son envergure en tant que personnage qui a été à tête de proue, tu vois, pour l'indépendance. Il y avait à ce moment-là, tu vois, une popularité qui lui permettait de prendre ces décisions-là.
Sinon, mais on ne peut pas dire qu'il était révolutionnaire non plus.
Il n'était pas révolutionnaire, tu vois. Mais qui est révolutionnaire?
Je vous renvoie la question. Moi, mon rôle, c'est de poser les questions.
Regardez, ce livre-là que j'ai apporté,
oui,
il est terrible, hein. Il est terrible. Parce qu'il dit que, finalement, cette époque ancienne, il y avait la magie, il y avait Dieu, il y avait les gens étaient mystifiés, mais étaient heureux parce qu'ils étaient pleins de ça. Mais maintenant, avec le capitalisme, il n'y a rien qui étonne. Ni la guerre atomique, ni les trucs comme ça. Plus rien n'étonne. Donc, il n'y a plus d'émerveillement, il n'y a plus qu'une chose, tu vois, l'ennui et le désarroi. Maintenant, le plus dur métier, c'est le métier, c'est de vivre. Il y a un très beau poème de Baudelaire, il dit à la fin, tu le connais, lecteur, ce monstre délicat, hypocrite lecteur, mon semblable, mon frère. Il parle de ce de l'ennui et dit dans un bâillement avalerait le monde. Et c'est pour ça que les gens s'activent. S'activent à faire des films, à faire de l'argent, à faire des trucs, pour pouvoir s'occuper. Dès qu'il n'y a plus rien à faire, on est confronté à soi-même, et c'est l'angoisse, c'est la panique. Les empereurs romains, quand ils gagnaient une bataille, ils revenaient, ils passaient sous l'arc de triomphe, ils avaient tout ce qu'ils voulaient, les femmes, l'argent, la boue. Eh bien, on s'est rendu compte qu'il y avait parmi eux ces empereurs, hein, il y avait un taux de suicide beaucoup plus élevé que dans la moyenne des gens. Et ils se sont intéressés à ce problème-là. Ils ont dit, pourquoi ils se tuent ? Alors, ils ont inventé un mot extraordinaire à ce moment-là, le tedium vitae.
C'est quoi c'est...
Le tedium vitae, le dégoût de la vie.
Oui.
Le dégoût de la vie. À partir du moment où on n'a plus rien à faire, c'est la panique. On est renvoyé à soi-même. Du temps, ce qu'a écrit Max Weber, le désenchantement du monde, ça va très très loin. Le désenchantement... On le voit d'une manière négative, parce qu'on est contre le divin, la magie, la religion, les trucs. Mais, tu vois, les gens étaient pleins de ça, ils croyaient en ça, et ça leur permettait de tenir debout, tu vois. Moi, je vois, tu vois, par exemple, je vois des gens hein, qui sont très croyants, très, très croyants. Tout ce que vous lui dites de maintenant, ils vous disent, voilà, dans le Coran, il y a ça, ça, ça. Ils sont imbus de ça. Si vous n'êtes pas croyant, vous êtes étranger à votre pays. Vous sentez étranger dans votre pays.
C'est quoi le courant des sociologues ?
Le moteur
fondamental de la sociologie.
Ah oui. Ah, c'est la bonne question, c'est la meilleure question, celle-là, oui. À partir du moment où on ne croit plus, ni à Dieu, ni au diable, il ne reste plus qu'une dimension qui nous permet de tenir debout, de ne pas nous ennuyer, de s'occuper de nous-mêmes, de faire de l'hygiène, d'écrire, de tout ce qu'on veut. Bon, ça va être un peu hack, mais c'est des liens de tendresse, des liens d'amour, des liens d'affection. À partir du moment où vous avez quelqu'un qui dit « je suis d'accord que tu sois là ». Tu vois, parmi les personnes que j'ai connues, une étudiante, elle me dit, et je trouve ce mot extraordinaire, « tu as rempli ma vie ». Tu vois, c'est-à-dire que le vide, c'est ça le problème. Le problème, c'est le vide, c'est le néant. Sartre n'a pas écrit le néant. D'ailleurs, Sartre, il m'ennuie un peu parce que tout ce qu'il écrit, il a piqué chez les Allemands. Tu vois, par exemple, quand il dit Sartre, il dit toutes les actions humaines se valent et toutes elles sont vouées également à l'échec. Aussi revient-il à même de s'enivrer solitairement ou de conduire les peuples. Si vous avez lu Hegel, vous trouvez, hein, tu vois, il a dit pratiquement comme ça, tu vois. Son image de l'oiseau de Minerve, tu vois.
Quel genre d'étudiant vous étiez ?
Alors, j'étais...
Je vous renvoie un peu en arrière.
Oui, j'étais un étudiant très studieux, très respectueux. Quand devenu est venu, tu vois, j'étais là, tu vois, et à ce moment-là, j'avais, mettons, 25 ans, 30 ans, hein, je priais, je faisais ma prière à l'heure, et comme on n'était pas nombreux, Grané amenait des bonbons et nous distribuait des bonbons aux étudiants. Quand il est arrivé, je lui dis non, moi, je jeûne, c'est le jeûne. Il m'a dit, mais écoute, Khalil, des tabous alimentaires au XXe siècle, c'est-à-dire que ce qui est extraordinaire pour nous d'avoir vécu longtemps, c'est d'avoir un pied dans l'autre monde et un pied dans celui-ci, tu vois. Et ce qui fait qu'on voit vraiment la transformation, comment elle s'est faite.
Est-ce qu'il existe en Tunisie une école de sociologie ? Autrement dit, est-ce qu'il y a une sociologie tunisienne ?
Voilà le problème. Si on prend... Chérif et puis la génération, la mienne et celle qui vient juste après.
Ou les plus jeunes, éventuellement.
Voilà. Alors Bourdieu dit un mot très juste. Il n'y a pas de demande sociale pour la sociologie. D'ailleurs, ils veulent la supprimer. Hein. Tu as entendu il y a des disciplines qui ne débouchent pas sur l'emploi. Ces sciences humaines, à quoi ça sert, puisque tout le monde est chômeur.
Mais alors, ça n'exclut pas l'existence d'une école de sociologie.
Oui. Mais tu vois, elle a toujours été suspecte. Elle a toujours été mal aimée par les dirigeants. D'ailleurs, Bourguiba, il a dit un mot. Les sociologues sont des âmes. Et moi, je lui ai répondu, pour dire ça, il faut être un âme. Alors, voilà ce qui se passe pour la sociologie. Quel est l'objet de la sociologie? Ce n'est ni la démographie, ni l'économie, c'est le tout. C'est l'ensemble de la société. Or, la société, le global, c'est l'affaire des dirigeants. Voilà ce que pensent ceux qui sont au sommet de l'État. La société, c'est leur affaire. La société, c'est le domaine d'investigation du sociologue, et la société, c'est l'affaire du pouvoir. Vous voyez où se situe le conflit. Donc, elle a toujours été mal aimée, la sociologie, indépendamment de tout. Maintenant, on invente autre chose, comme quoi il n'y a pas de débouché. Mais il n'y a de débouché pour aucune discipline. Donc, c'est un peu un prétexte.
Mais dans le sens de la recherche, de la production scientifique, est-ce qu'il y a de la production d'études sociologiques?
Je réponds directement parce que je suis impliqué là-dedans. Tu vois. Il y avait le CERES, Centre d'études et de recherche économique et sociale, où il y avait Habib Atay, où il y avait Germelli, il y avait donc une équipe qui a fait la renommée de ce CERES, tu vois, qui était beaucoup plus en avant sur l'Algérie, le Maroc, etc. Et maintenant, ça s'est inversé. Tu vois. Où il y a eu une production extraordinaire qui est là, au CERES, dans la revue du CERES. Il suffit de feuilleter et de voir les... Il y avait une équipe de linguistes, une équipe de psychologues, une équipe de sociologues, une équipe de démographes, une équipe de linguistes, et il y avait un travail vraiment de très haut niveau. Tu vois. Et les gens étaient passionnés, ils croyaient à ce qu'ils faisaient. Tu vois. Alors, qu'est-ce qui s'est passé après ? Avec Ben Ali, nous avions fait une pétition contre la torture. Et il y avait Salah Hamzaoui, moi-même, on était à presque 18. Je voulais me flanquer 5 ans de prison parce qu'on a signé une pétition contre la torture. Et puis il y avait surtout l'Islami, Ghannouchi. Quand ils ont pris le pouvoir, parce qu'ils ont pris le pouvoir, hein, la révolution, ce qu'on appelle la révolution, c'est une jacquerie paysanne. Aucun de ceux qui ont fait la révolution ne figurait dans l'équipe qui a pris le truc. Ce sont des gens qui ont récupéré l'affaire avec les islamistes. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Bon, ils ont vidé le CERES, les anciens, ils les ont distribués dans différentes institutions. Et puis, ils ont construit une nouvelle habitation, là, qui est là où on devait aller, qu'ils appellent CERES, mais qui n'a rien à voir avec le CERES. Il y a dedans 22 islamistes qui n'ont aucun diplôme, qui ont reçu une somme énorme, comme quoi de compensation parce qu'ils ont fait de la prison. Ils reçoivent 2,5 millions par mois. Ils ont une retraite. Ils n'ont jamais mis les pieds là-bas.
Et donc ça veut dire que c'est un centre de recherche où il n'y a pas de sociologue?
Où il n'y a pas de sociologue. C'est-à-dire que ce que je disais tout à l'heure, tu vois, qu'il y a un gonflement extraordinaire des fonctionnaires. Quand ils sont arrivés au pouvoir, ils ont fait ce que fait tout pouvoir, partout. Ils ont mis leur monde partout, dans toutes les institutions, dans la justice, dans l'intérieur, dans la recherche. Rien n'a échappé. Toutes les institutions ont été infiltrées. Alors, pour moi, l'exemple le plus net, hein, c'est le CERES.
Pardon, mais moi je connais au moins quelques-uns qui sont au CERES, qui ne sont ni islamistes, ni vendus en Inde, ni impliqués dans les questions de pouvoir.
Qui?
Mounir Saïdani. Mounir Saïdani.
Oui.
Voilà un exemple, oui. Parmi d'autres.
Il y a aussi un économiste brillant, qui est marxiste, etc. Je vais m'en rappeler.
Mais l'école de sociologie, quand on parle d'une école de sociologie, on ne parle pas du CERES seulement ou telle personne, on parle de toute une pensée, de toute une production scientifique, de l'université, de l'enseignement, de la transmission, des traductions d'autres langues vers le tunisien. de la formation des étudiants. Est-ce que tout ça, ça existe en Tunisie? Est-ce que ça a existé? Est-ce que ça existe? Elle est où, la sociologie en Tunisie?
Voilà, c'est difficile de la repérer, de dire qu'il y a une école, tu vois. Parce que finalement, ce qu'il y a eu, c'est un enseignement. Il y a eu Ibn Khaldoun, évidemment, mais depuis, il n'y a plus rien. Et puis, il y a eu, comme je vous ai dit, la sociologie a été greffée, a été introduite par deux Français qui étaient des élèves de Gurwitch, tu vois.
Ouais.
Voilà, c'est ça, c'est ça. Et alors, ce qui existe, c'est maintenant, c'est-à-dire que c'est cette équipe, c'est nous, et puis c'est les étudiants qu'on a eu, c'est ça. C'est difficile de mettre une liste, par exemple, de personnes, voilà, ça c'est la sociologie. Lorsqu'il y a ces tentatives du pouvoir de marginaliser la sociologie ou de la supprimer, ce qui n'est pas possible, et c'est ça ce qui répond au fond de votre question, c'est que s'il y a des phénomènes chimiques, il faut qu'il y ait la chimie. S'il y a des plantes, il y a la botanique. S'il y a des gens, tu vois. Et à partir du moment où il y a la société, hein, on ne peut pas ne pas l'étudier. Il ne peut pas y avoir un champ de type de réflexion sans qu'il soit étudié. Donc, de toute manière, cette pensée dure, reste, tu vois, il y a beaucoup de personnes qui sont très sensibles à l'aspect social. Et un des reproches qu'on fait, tu vois, tout le temps, à maintenant, c'est qu'il y a trop de juristes, il y a trop d'économistes, où sont les sociologues? Alors que les problèmes qui se posent sont essentiellement sociaux. Essentiellement sociaux. C'est-à-dire que ce sont des problèmes globaux, ce sont les problèmes de l'immigration, les problèmes du chômage, les problèmes du suicide. C'est-à-dire que à partir du moment où tout est dans la société, tous les problèmes qui sont posés par les spécialistes sont sociaux.
Khalid Zamet est le sociologue. Je sais que vous avez écrit beaucoup et publié beaucoup. Beaucoup plus d'articles que, ce qui est assez normal hein, pour des gens du milieu académique, plus d'articles que de livres. Vous avez écrit, par exemple, un livre, si je ne me trompe pas, mais je crois le connaître même, qui s'appelle « L'homme et la montagne ».
Ah oui, oui.
Vous êtes l'homme de la montagne ?
Ah oui. J'ai écrit deux livres. C'est des Hamad et Soutanja, « Sologie de la folie
oui. »,
tu vois. Et puis, l'homme et la montagne.
Ouais. Hein. C'est quoi cette idée de l'homme et la montagne? Vous n'êtes pas de la montagne.
Non, je suis de la plaine. Je suis de la mer. Ça.
Oui. Parce que je me suis dit, si ce n'est pas une provocation, une réponse à l'homme et la mer.
Le chef de la section de pédologie à l'école nationale d'agronomie, à l'INAP. C'est lui qui m'a appelé, il m'a dit, écoute, c'est l'année de la montagne. Je sais que tu as beaucoup écrit sur la montagne, fais-nous quelque chose.
C'est quand ça?
Ah ben, c'est pas loin, il y a une dizaine d'années. Alors, j'ai fait l'article, et après je l'ai augmenté avec d'autres enquêtes sur la montagne. Le point de départ, c'était ça.
Mais ce livre sur la montagne,
oui.
Qu'est-ce que vous voulez dire à travers ce livre? C'était quoi le sujet de ce livre?
Il y avait beaucoup d'aspects, hein, mais un des aspects, c'était la source.
Les sources d'eau.
Les sources d'eau. Les gens, dans les montagnes, buvaient des sources. Mmh. Et maintenant, tout le monde veut avoir la sonnette. Je voyais cette ancienne société. J'étais là, adossé près de la source. Et il y avait une dame qui devait avoir au moins 60 ans, une vieille dame, des charnoux, et qui est venue avec un bidon de 20 litres. Et il y avait son fils à côté, qui était un type costaud comme ça. Tu vois. Quand je l'ai vu, et il m'a dit, c'est ma mère, je lui ai dit, mais écoute, aide ta mère, tu vois. Quand... C'est elle qui m'a répondu. Elle m'a dit, est-ce que c'est normal qu'un homme porte les habits d'une femme? C'est-à-dire qu'il y avait une division sexuelle des tâches. Mais à partir du moment où c'est la personne elle-même qui, pour moi, me paraît exploitée, lésée, etc., par rapport comme ça, c'est elle qui a... ça a été inculqué. C'est-à-dire que l'idéologie dominante elle est inculquée chez tout le monde, aussi bien ceux qui en sont peinés que ceux qui en profitent, en quelque sorte, tu vois. Et donc, pour moi, c'était une révélation, cette affaire-là, tu vois. C'est-à-dire, tu vois, que c'est pas facile de décrire seulement, voilà, d'accord. Il faut voir comment, à partir du moment où, dès le plus jeune âge, on inculque un certain nombre de valeurs, elles finissent par nous téléguider toute sa vie, sauf si après on fait des révisions et qu'on garde certaines choses, on élimine d'autres. Pas loin de là, Tegmerwey, deux villages aussi dans le nord-ouest. C'est le seul endroit où ce sont les hommes qui portent l'eau. Alors, ça m'a... Parce que pour moi, bon, ce que je voyais, c'était cette division sexuelle des tâches. Pourquoi ? Il n'y avait que deux gros propriétaires à 80 km à la ronde. Et ils n'emploient que les femmes. Parce qu'elles ne respectent pas, elles travaillent toute la journée, elles acceptent d'être vexées, et les hommes ne faisaient rien. Ils ne voulaient pas recruter des hommes. Tu vois. Tout ça, c'est écrit, hein, je résume comme ça rapidement. Mais c'est... Alors, les hommes se sont mis à apporter de l'eau. Mais comment ils apportent l'eau ? Comme c'est honteux, l'homme ne se baisse pas comme ça. Tegmerwey, c'est les deux seuls endroits où il y a un âne dans chaque famille. Dans les autres, tu as un âne pour 10 familles ou des trucs comme ça. Parce que c'est sur le dos de l'âne. L'eau est transportée soit à dos de femme, soit à dos d'âne. Mais jamais à dos d'âne, tu vois. Voilà, tout ça, je l'avais repris. C'est-à-dire que c'est un déclic. À partir du moment où c'est sa mère qui a répondu, elle m'a dit non, tu vois, mais Gige, un homme ne peut pas porter les habits d'une femme. C'est un marqueur. L'hégémonie culturelle. Il faut reprendre ce mot chez Gramsci. Voilà. Il avait reproché à Marx de tout ramener aux forces productives et aux rapports de production. Et lui, il avait dit que l'hégémonie culturelle aussi mène le monde. C'est pour ça qu'il y a eu cette lutte très intense pour l'école ici, tu vois.
Mais là, on parle de quelle hégémonie ? De la ville, vous voulez dire, sur la campagne ?
Non, l'hégémonie, c'est-à-dire ce qui est majoritairement inculqué aux jeunes.
Vous avez travaillé aussi sur les oasis.
Ah oui.
Et est-ce que vous voyez une différence en termes de... culturel justement, pas seulement culturel, les divisions sexuelles des tâches, entre les oasis, la montagne et la plaine, si
voilà,
je peux dire.
Exactement.
C'est quoi la différence entre ces trois paysages ?
Une très grande différence. Les oasis, c'est le mode de production qui se rapproche le plus du système féodal. Sans qu'on puisse l'identifier comme ça. Le Hammas, il y a un certain nombre d'obligations. Le seul texte qui régit ça, c'est qu'il ne doit pas partir. C'est un rapport énorme. Parce que là-bas, dans l'Oasis, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a les grands propriétaires français. Gesh, par exemple, tu vois, c'est trois personnes qui la possèdent en entier.
On parle de quelle époque, là ?
Ce dont je vous parle maintenant, il y a 30 ans à peu près.
Et dans la montagne, qu'est-ce qui domine ? Alors, si dans l'Oasis, c'est ce système-là...
Alors, dans la montagne, c'est tout à fait différent. Il y a à peu près 1 million de personnes qui vivent dans la montagne.
Maintenant ?
Oui. La montagne était protégée, jamais détruite, jusqu'au code forestier. Le code de la montagne qui était fait par la France. Il y avait les tribus noires, qui avaient aussi des parties de montagne. Quand ils venaient dans le nord, ils amenaient des dattes, ils prenaient du blé, etc. Ils faisaient paître les bêtes dans les lueurs. Et puis, ils avaient des lanières de montagne qu'ils ne détruisaient pas. À partir du moment où l'État est devenu propriétaire de la montagne, c'est à ce moment-là que ceux qui étaient dans la montagne commençaient à détruire la montagne, à détruire les arbres. La destruction des forêts a commencé avec l'appropriation de la montagne par l'État. Donc, en plus, tu vois, il y avait des gardes forestiers qui signalaient les forêts. Et il y avait des passages, des pistes pour aller atteindre n'importe quel endroit. Ces pistes, maintenant, elles sont complètement embrouillées. Quand il y a des incendies, c'est très compliqué d'y arriver. À la montagne, il n'y avait pas ces rapports de ramassage. La règle, c'est celle-ci. Mais à partir du moment où c'est fait, on ne le dérange plus. Alors, tu vois, c'était des gourbis. Il n'y avait que des gourbis. Et puis, à un certain moment, Bourguiba encore, lui, on lui a dit que statistiquement, il y a tant de gourbis. Il a amené Ben Salah, qui s'occupait aussi des travaux publics et tout, il lui a dit, écoute, vous allez changer complètement le budget, les affectations budgétaires, je veux que d'ici la fin de l'année, il n'y ait plus un seul gourbi. Tu vois. Et donc, c'est le CLS qui a été chargé de faire une étude sur les gourbis. Et j'étais parmi
eux. Il y avait ce bug avec vous?
Non, ce bug, c'était avant, à la montagne. Dès l'instant où les gens construisent un truc, qu'est-ce qu'ils font? Il est interdit de prendre des trucs verts, des arbres, des branches vivantes, tu vois. Seulement est permis ce qui est sec, tu vois. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Vous savez que pour un arbre, il y a la sève qui monte et puis qui redescend encore par le... Qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent couper, un peu loin de la maison, 100 mètres, comme ça, ils viennent couper tout une circonférence comme ça, ils enlèvent la peau, carrément. Mm-hmm. L'herbe finit par se dessécher. Ils programment la mort parce qu'ils vivent que du charbon. Voilà.
Ça, c'est dans quelle région? Le nord-ouest, la montagne et de la nord-ouest.
Voilà, dans cette équipe dont je vous ai parlé, on a comptabilisé le nombre de stermes, de trucs. Et alors, comme j'étais sociologue, moi, que les autres n'étaient pas sociologues, moi, je m'intéressais aux gens. Alors, ils se plaignaient tous d'avoir mal aux yeux, une cécité crépusculaire. Et qu'est-ce qui s'est passé? La transformation. Comment on passe de l'herbe au plastique? Avant, il y avait une plante qui s'appelle 10. Et les gourbis étaient couverts de 10. Ce qui fait que la pluie ne descend pas. Il n'y avait plus de 10. Tu vois, il a été brûlé, il a été consommé par les bêtes, etc. Il n'y avait plus de 10. Donc, ils ont mis un plastique. Et alors, il y avait quelqu'un qui était directeur du laboratoire de chimie à la fac de sciences, ici, qui a lu le papier. Il m'a dit, il faut que j'aille voir. Et tu sais ce qui s'est passé? Avec ce réchauffement, le plastique, à partir d'une certaine, libère des particules. Et ce sont eux qui intègrent la cornée. Regarde, la multidisciplinarité n'est pas un caprice, maintenant, tu vois. C'est-à-dire que chaque fois qu'il y a un phénomène, il y a différents éclairages, agronomiques, pédologiques, etc., et sociologiques. C'est à ce moment-là que ça devient intéressant.
Alors, ça, c'était quelle année, à peu près?
Allez, c'est quand j'avais fait mon papier, il est dans le bouquin sur l'homme et la montagne.
D'accord.
Non, c'est le gilet à la maison. D'ailleurs, tu vois, les gens disent que les gens ne lisent pas. C'est pas vrai. Moi, ce premier bouquin que j'ai fait sur Sidi Hamadi, il a été épuisé, Sidi Hamadi, Sultan de Chien, en 2 mois à peu près. Et quelqu'un qui avait une boîte d'édition, Ceres Production, donc il a fait un deuxième qui est aussi épuisé. Moi, j'en ai qu'un exemplaire. Donc, c'est-à-dire que quand il y a quelque chose qui vraiment a sens pour les gens. C'est-à-dire qu'ils comprennent, eux, puisque tu parles d'eux, ils comprennent et ils saisissent les notions les plus abstraites. Ils voient que ça renvoie à ça, à des choses qui sont vécues. Moi, les problèmes avec les revues, c'est ça. Au début, ils m'ont dit, écoutez, mais ça ne passe pas. Et finalement, tu vois, le travail à faire, c'est que, bien sûr, tu utilises des concepts, structures, mais, tu vois, tu essayes de rendre compréhensible au maximum de gens, mais eux, il faut qu'ils fassent l'effort aussi, tu vois.
Et vous avez écrit, alors là, ça m'a passionné, vous avez vos publications sur la folie.
Ah, sur la folie, oui.
Mais c'est quoi la folie?
Alors, la folie, nous sommes tous fous, en quelque sorte. Voilà ce qui se passe. Sidi Hamadi, Sultan al-Jain. Maintenant, quand les gens parlent des marabouts, tu vois, voilà, c'est l'ancienne société, c'est la catastrophe, c'est des trucs comme ça. Or, c'est le chamanisme. C'est un phénomène qui a existé en Afrique, en Asie, et puis tu vois, en Amérique latine, tu vois, le conte anglais, etc. Tu vois. Roger Bastide, qui est un homme très athée, très lucide, il est devenu membre d'un truc tellement il a été impressionné par ce processus-là. D'ailleurs, après, on a compris, parce qu'il y a eu des médecins, canons, etc., qui ont montré qu'est-ce qui se passe. Mais bien avant qu'on sache comment, ouais, c'est... et ça, c'est un trait de génie. Freud, il avait dit, la démonologie, la croyance au démon. La démonologie, c'est une théorie de la maladie mentale. C'est Freud. C'est extraordinaire. Parce qu'il l'a dit bien avant qu'on comprenne ce qui se passe. Ce qui se passe est bien simple. C'est que le corps et la subjectivité sont les deux faces d'une même réalité. On peut agir sur le corps à partir de la subjectivité et inversement. Alors, c'est Sidi Hamad Sultan al-Jain, ce marabout qui guérit les maladies mentales. Il arrive à guérir des personnes que les psychiatres échouent à guérir. Pourquoi ils échouent à guérir? Parce qu'ils n'appartiennent pas à la même culture. Un exemple, c'est mieux, un petit jeune. Son fils devait se marier. Et cette nuit-là, il n'a pas su faire l'amour. Pourquoi? Parce qu'on a jeté sur lui un sort. Bref, il y a Deb, qui est le marabout malfaisant, qui fait un chorl. Un chorl, c'est-à-dire du son du coq noir, un os pris de... Il fait un truc et puis il jette un sort. Et quand la personne croit qu'il lui a jeté un sort, il allait vers son échec parce qu'il était absolument persuadé qu'il n'y arriverait pas parce qu'il est marabout, il est attaché. Le lendemain, il va chez Sidi Hamadi, Sultan al-Jain. Sidi Hamadi, c'est un bel homme, tu vois. Il a la plus grande parcelle de terre. Il y a 7 tombeaux sous le marabout, 7 tombeaux. Et chaque fois, celui qui possède le don le transmet au plus âgé de son fils. Alors, cette personne qui a pas su faire l'amour, il vient, Siam Tijani, il est tout nu, il lui attache un talisman ici, il lui encense le sexe, et c'est ça le mot extraordinaire, tu vois. Il lui dit, bon, parce que leur croyance est très ancienne, l'islam officiel est contre, tu vois. Il y a à la fois des emprunts très très anciens, tu vois, et puis ensuite le Coran. Il dit, de même qu'un tel est à pénétrer dans une telle, de même que l'écume de deux vagues sur le bord de la plage se mêle, ainsi se rencontre le mal d'une telle et le sexe d'une telle. À partir du moment où le gars est sûr d'avoir été détaché, rabtou, il va et le lendemain ça se passe très bien. Ça c'est un exemple. Mais il y a beaucoup de gens qui viennent chez lui. Et il ne prend pas d'argent. C'est-à-dire que tu donnes ce que tu veux, comme ça. Sous forme de dons, c'est des Hamad des Sultan al-Jain. C'est extraordinaire. Le désenchantement du monde, c'est qu'on ne croit plus à ça.
Est-ce que le désenchantement du monde, c'est aussi une tentative de s'éloigner de la folie?
Non, pas du tout. Mais je ne pense pas qu'il y ait un lien comme ça entre la folie. Parce que c'est quand même, il y a des phénomènes neurologiques et beaucoup plus compliqués que simplement subjectifs, tu vois. Et donc ça, je ne pense pas que le désenchantement élimine la folie. Au contraire, il favorise la folie parce qu'il favorise l'ennui, la dépression, le désarroi, le désenchantement. Alors, ce n'est pas facile, hein. On le voit comme ça. Il n'y a plus rien qui nous émeut, plus rien qui nous enchante. Mm. Tout est mathématique, tout est scientifique.
On s'approche de la fin, donc j'ai quelques séries de questions comme ça, rapides. Est-ce que vous êtes sociologue au quotidien? Est-ce que vous, tous les jours, vous êtes sociologue?
Oui. C'est extraordinaire, ça, tu vois, comme question, tu vois. Parce que je me promène dans la rue, tu vois, et quelqu'un me dit un mot. Tiens, tout de suite, je le capte et je l'intègre dans mon écriture, tu vois. Que tout est sociologue, en quelque sorte. Oui.
Est-ce que vous êtes un sociologue engagé?
Absolument, oui.
Et vous l'êtes toujours?
Toujours, oui.
Vous l'avez toujours été?
Je mourrai comme ça, oui.
Est-ce que c'est important pour les sociologues d'être engagés? Est-ce qu'on peut être sociologue et non engagé?
Voilà, je te donne un nom. Alain Touraine, qui vient de mourir.
Oui.
Alain Touraine était un sociologue, mais il était de droite.
Il était engagé.
De droite. Regarde, celui qui était engagé, c'est Yvan Bourdet, qui lui a fait une critique terrible, parce que Alain Touraine, il voulait faire une étude sur les Bretons, tu vois, le mouvement occitan, indépendantisme. Et ils lui ont dit, non, nous ne le voulons pas. Tu sais ce qu'il leur a dit? Ça, c'est ce que raconte Yvan Bourdet, tu vois. Il leur a dit, si vous me laissez faire l'étude, la renommée que j'ai à l'université, ça rejaillira sur vous, vous serez plus connu. Ça n'empêche pas. Mais voilà. il a une attitude élitiste. Alain Touraine, quand il y a eu la guerre du Golfe, que ça se préparait, il a écrit un papier dans Libération où il disait c'est la guerre promise, où il était pour la guerre. Mm. Et il y a eu deux personnes qui l'ont attaqué frontalement, Deleuze et Bourdieu, qui lui ont dit c'est une guerre coloniale, c'est un truc comme ça, comment tu justifies des choses pareilles. Moi j'ai fait un papier dans Peuple méditerranéen, pour dire ça, pour dire qu'on peut être occidental et être contre l'Occident. Alors j'avais fait cette phrase, il n'est pas donné à tout homme de ne naître qu'à un endroit et d'être la crème des hommes. Mais c'est ça qui est extraordinaire. Comment on peut se décentrer? Comment on peut se décentrer? Et maintenant, en Israël, il y a le mouvement Paix Maintenant qui sont contre la politique de colonisation et de trucs comme ça. Ça, c'est extraordinaire, tu vois, vraiment. D'être dans un système d'appartenance, tu vois, et d'être contre quand on voit que... c'est ça ce qu'ils n'arrivent pas à faire maintenant, l'Occident, tu vois. Surtout les Américains, tu vois. Les Américains, les Italiens, les trucs. Maintenant, pour eux, la seule chose qui les embête, c'est l'immigration.
Est-ce que la sociologie, c'est un savoir universel, ou est-ce qu'il y a une sociologie du Sud et une sociologie du Nord?
La sociologie, c'est une série de concepts qui sont universels. Qui sont universels, tu vois. Lorsque Hegel écrit, lorsque Gurwitch écrit, ou Devenu, ou la Ballandier, ou la Hajek, ils n'écrivent pas pour la France, tu vois. Chaque société a sa spécificité. Maintenant, il y a la mondialisation, mais les sociétés existent quand même. C'est-à-dire que tu as un appareil conceptuel, qui est facile d'ailleurs en réalité, tu vois. Tu as une action sur le milieu, une organisation des hommes entre eux, avec ces différents niveaux de paliers. Mais par exemple, quand on a voulu inventer l'ethnologie, tu vois, pour dire que voilà, il y a la sociologie pour l'Occident, les hommes, les surhommes, et puis pour les autres, les sous-hommes qui sont sans culture, sans écriture, sans tout comme ça, on va faire l'ethnologie. Et Bourdieu est féroce contre ça. Il dit que l'ethnologie, bon, il y a des trucs, mais elle est fondamentalement raciste, tu vois, parce qu'elle elle pense qu'il y a des disciplines à faire pour les sociétés particulières, tu vois. Mm-hmm. La sociologie, elle s'applique en France et elle s'applique partout, tu vois. Dans son noyau dur, tu vois, les concepts fondamentaux, tu vois.
Vous pensez qu'on peut être chercheur, penseur en sciences sociales, pas uniquement sociologie, et avoir une approche décoloniale? Qu'est-ce que vous pensez des approches décoloniales?
De décolonisation?
Oui.
Bien sûr, tu vois. C'est-à-dire que finalement, l'illusion, c'est de croire que c'est Senghor, Bourguiba qui ont fait la décolonisation. Les cinq, là, tu vois. Mm. Mais en réalité, c'est... Il y a un très beau texte qui a été écrit par justement avec Samir Amin, tu vois, qui le texte, je l'ai chez moi, il dit le colonialisme avatar de l'impérialisme. Mm-hmm. C'est-à-dire que à partir du moment où ça devenait une charge inutile et superficielle, je vais te dire pourquoi inutile et superficielle, de faire une administration directe et une armée, à partir du moment où l'ancien système de production a été détruit et que le transfert de valeur fonctionne, c'est ça l'essentiel. De Gaulle a été intelligent, il leur a dit je vous ai compris, mais enfin il le disait pour les deux. En réalité, tu vois, ce qui intéresse l'Occident, l'économie, le capitalisme central, tu vois, c'était ce transfert de valeur. À partir du moment où le transfert de valeur fonctionne, le reste, ça devient une charge inutile. Donc c'est l'Occident qui a décolonisé. La décolonisation, c'est le départ. D'ailleurs, c'était clair, tu vois. L'évacuation, c'est ça.
Oui, mais le gelé intellectuel, est-ce qu'il a été fait?
Et il n'y a pas de gelé intellectuel. C'est-à-dire que si tu apprends la chimie, tu ne dis pas c'est une chimie française, je vais faire une chimie tunisienne. Mm. Tu comprends? Mm. Qu'est-ce que c'est? À partir du moment où la science a une dimension universelle, hein, il n'y a plus de... Moi je ne pense pas que c'est français ou des trucs comme ça. Hein. Tu as un corps à corps avec le terrain et tu produis quelque chose. Tu ne vas pas inventer des théories. On ne va pas inventer une théorie sociologique maintenant. Mais avec cette touche, tu éclaires des aspects de ta société. Et c'est ça, hein, qui peut être original et intéressant. Mmh. Donc, tu vois, je ne crois pas qu'il y ait des sciences particulières pour chaque société. La sociologie est universelle.
Est-ce qu'on est en train d'assister à la mort de la sociologie? Y compris à cause des 10 dernières années.
Revenons à Heidegger. Mmh. Il avait dit, maintenant, la philosophie est morte, ça va être les sciences, la technique, l'économie, etc. Tu vois. C'est-à-dire que on peut dire qu'il y a un déclin, un risque de disparition de la sociologie. On sent ça, tu vois. Parce que, tu vois, maintenant, l'électronique, l'aspect technique, etc., est en train de prendre le pas. C'est-à-dire que la philosophie a été gréco-romaine, elle a été arabo-persique comme le Golfe, et maintenant, et depuis, elle est allemande. Les plus grands sont allemands. Et à tel point qu'il y a eu une thèse d'État qui a été faite sur ce thème. Elle a montré comment les profs français, à ce moment-là, et qui étaient dans les boîtes d'édition, ils ont empêché la traduction des textes allemands. Et puis, ils ont pris toutes ces idées, ils ont sorti un certain nombre de bouquins, ils ont enseigné, moi j'ai assisté à des cours comme ça, tu vois, où ils pillaient systématiquement la production allemande, et ils la présentaient comme une production originale, écrite en français. La thèse qui a été faite a été pour dénoncer ça.
On va finir avec une note d'espoir. Il y a quand même des jeunes chercheurs en sociologie qui ont peut-être une chance de donner quelque chose de nouveau.
Oui, bien sûr. C'est-à-dire que ça dépend de la voie dans laquelle ils vont s'engager. Il y a une lutte à mort pour faire un enseignement de ce type ou un enseignement de ce type. Tu vois. Et donc ça dépend de ça, encore l'hégémonie culturelle. Tu vois. C'est-à-dire que si on arrive à leur inculquer une vision comme ça, ils deviendront ce qu'on fera d'eux. Hein, tu vois. C'est-à-dire que ce qui serait à faire, c'est de les séparer de nous, tu vois, et de les laisser...
De nous, ça veut dire des vieux pour englober tout le monde.
De leurs parents. De leurs parents.
Pas de leurs maîtres, pas de leurs professeurs.
Non, pas du tout. Ça, c'est une culture universelle.
À moins que j'ai oublié quelques questions, et j'en ai beaucoup oublié, je le sais. Est-ce qu'il y a un point que je n'ai pas abordé et qui est pour vous important que vous voulez souligner?
Je pense, tu vois, que un des drames actuels, c'est qu'il y ait, depuis Breitenberg, depuis le partage colonial, il y a eu un certain nombre de sociétés occidentales qui se sont partagées les zones d'influence et qui se sont dit, Staline était avec eux. Nous, 5 pays, avons le droit de vote. Nous avons le nucléaire. Il faut empêcher les autres d'avoir le droit de vote et il faut empêcher les autres d'avoir le nucléaire. C'est cette grande scission entre des hommes et des sous-hommes, les anciens colonisés, le tiers-monde, tu vois, qui vraiment apparaissent comme des sous-hommes par rapport aux surhommes dont parle Nietzsche, qui sont ceux qui ont le droit de veto, qui sont ceux qui ont le droit d'avoir le nucléaire. Alors, c'est ça qui est aberrant. C'est ça qui est de plus en plus difficile à tenir, en quelque sorte. Tu vois, parce que de plus en plus de pays acquièrent au nucléaire, tu vois. Le truc du Nord, la Chine, la Russie, c'est ça qui est en train de faire basculer cette espèce de domination qui allait de soi. Les civilisations naissent, progressent et disparaissent, tu vois. On croit que vraiment, maintenant, c'est la première fois que ça arrive et qu'on va rester éternellement comme ça, tu vois. Mais je pense que cette illusion de l'Occident, comme quoi il va rester le maître du monde et qu'il va définir l'histoire et que les autres ne sont que des produits de l'histoire. C'est cette époque-là que nous vivons, il y a un basculement qui est en train de se faire, tu vois, avec le BRICS, etc. La Chine, le Brésil, le tu vois. Et je pense que c'est ça le grand problème qui se pose maintenant.
Merci. Voilà. Infiniment. C'était formidable. Merci. Vraiment,
c'est...